Vera, la santé pour tous avec Vieux Goliath, Maman Petoto, Finke et Faro. Vivra Vera, pour découvrir les questions de santé de la reproduction, la promotion de la femme, des violences domestiques et d'autres thèmes tout en se divertissant. Vivra Vera, le feuilleton de Population Media Center sur Radio Capi, le mardi soir et les jeudis soirs à 21h, le dimanche à 11h40 et à 19h40.
Vivra Vera. En République démocratique du Congo, plusieurs bas quartiers subissent régulièrement, je voulais dire, des inondations pendant la saison des pluies. Cette montée des eaux cause des pertes énormes des biens et même des vies humaines. En outre, elle favorise la propagation de certaines maladies d'origine hydrique, d'après les experts. Alors, comment prévenir les risques d'inondations? On en parle avec notre invité, Théodore Lokaka, expert en environnement. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur Théodore, généralement, quelles sont les causes des inondations dans plusieurs quartiers à travers le pays?
Bien, dans le cas de Kinshasa, comme aussi dans plusieurs villes de la République, le réseau d'assainissement des eaux pluviales est vétuste. Il a été érigé pendant la colonisation, quand ces villes ont été construites. Et la plupart des quartiers qui se sont ajoutés dans ces villes, ce sont des quartiers d'autoconstruction où le réseau d'assainissement d'eau pluviale n'a pas été prévu, n'a pas été aménagé. Ce qui entraîne que ces réseaux anciens, bouchés, vétustes ou détruits, où les gens ont construit au-dessus, ne permet plus de canaliser, d'évacuer, de collecter les eaux pluviales qui tombent. Et puis avec l'extension de la ville, la construction de nouvelles cités, maisons.
De manière anarchique.
De manière anarchique, le développement de ces espaces imperméables de la ville fait que ces eaux de pluie qui tombent, surtout pendant cette période, au mois de novembre, qui est une période de fortes pluies, ne savent pas où aller, vont divaguer, entre guillemets, mais dans tous les sens, et créer des inondations.
Est-ce qu'on peut dire que la dernière grande pluie qui s'est abattue dans la ville province de Kinshasa avait causé beaucoup des inondations un peu partout?
Bon, je n'ai pas la situation exacte, mais je pense que lors des premières pluies, comme les sols étaient encore secs, la chose qui se passe, c'est que l'eau va avoir tendance à s'infiltrer. Mais lorsque la nappe sera suffisamment remplie, alors l'eau qui va être en surplus va commencer maintenant à s'écouler et créer des inondations, surtout si ces eaux partent des zones collinaires qui entourent la ville de Kinshasa, dans le cas de Kinshasa.
Donc on retient que la première cause, c'est les inondations. Pour les cas, par exemple, de la ville province de Kinshasa, ce sont les constructions anarchiques.
Bon, il y a les constructions anarchiques, les caniveaux qui existent, qui sont bouchés. On a construit au-dessus de ces caniveaux, ils ne sont plus fonctionnels. Et il y a aussi l'inexistence donc des caniveaux dans ces quartiers d'autoconstruction, des nouvelles cités. Et puis il y a aussi les déboisements. Les déboisements, surtout sur les zones collinaires, on a déboisé la verdure qui existait. Donc, cette verdure empêchait les eaux de s'écouler d'une façon brutale vers la plaine.
Voilà. Ce sont les raisons à la base des inondations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les risques d'inondations, Théodore Lokakao?
Bon, la première chose à faire, c'est commencer d'abord à déboucher les caniveaux, à essayer de rendre ces caniveaux praticables, fonctionnels, pour que les eaux de pluie qui peuvent tomber puissent y adhérer et s'écouler normalement. Et puis, au niveau de chaque parcelle, il faut qu'on puisse recueillir les eaux qui tombent sur la toiture par les gouttières et les canaliser vers un trou de rétention qui va permettre à ces eaux de s'infiltrer dans le sol. Et au niveau du quartier, essayer de créer aussi des trous de rétention sur certaines avenues, surtout dans la partie collinaire des villes, la ville, ça c'est recommandé. Et essayer aussi
creuser des bassins de rétention.
Des bassins de rétention.
Des eaux de pluie.
Des eaux de pluie. Oui. Planter la pelouse, le gazon ou le bambou, et surtout les vétivers, qui peut freiner ces eaux d'emporter les sables, les sols sur lesquels elles circulent.
Oui, mais généralement, les quartiers comme Kingabwa, par exemple, c'est des quartiers reconnus qui sont souvent inondés parce que c'est peut-être qu'ils se trouvent à proximité du fleuve Congo. Et on peut dire que est-ce que tous ceux-là qui habitent à proximité des rivières, des fleuves, est-ce que même s'ils font ce que vous dites là, est-ce qu'ils seront à l'abri des inondations?
Bien, le problème, c'est il y a des quartiers comme Danou et autres où les gens ont essayé de récupérer de l'espace par rapport à la rivière, par rapport au fleuve, pour faire leur parcelle. Bon, il faut faire des trous, il faut faire le rabattement de la nappe, comme on dit, faire creuser des puits pour que ces eaux puissent être évacuées. Et puis, faire les systèmes de drainage. Faire les systèmes de drainage, parce que quand vous allez dans ces quartiers, il n'y a pas un système de drainage de ces eaux de pluie. Donc, ces eaux ne sachant pas où aller, commencent à augmenter en volume et causer des dégâts au niveau des habitations.
Voilà. Mais vous avez dit tout à l'heure que le système de drainage est très vieux, qui date de l'époque coloniale.
Oui, ou inexistant.
Ouais, inexistant presque.
Oui, dans la plupart des quartiers.
Dans la plupart des quartiers. Ouais. Alors, mais si un quartier a été occupé anarchiquement et puis il y a des inondations régulièrement, vous pensez que si les habitants essayent d'avoir des tranchées ou de creuser des bassins de rétention d'eau, c'est vraiment une solution durable au problème?
Bien, cela nécessite certainement la présence, l'assistance d'un expert dans le domaine d'assainissement pluvial qui peut les aider à trouver la bonne solution. Parce que donner, disons, une solution un peu générale comme ça n'est pas adéquate. Hein. C'est par rapport à chaque situation qu'on peut examiner avec la population, voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Pour les cas des Kingabwa, par exemple, qu'est-ce qui peut être fait?
Bon, dans le cas des Kingabwa, on peut faire des tranchées. On peut faire des tranchées en étudiant le terrain pour voir quelle est la bonne pente donnée à ces tranchées pour que les eaux puissent y entrer et s'écouler vers la rivière Njili qui est à côté.
Comment prévenir les risques d'inondation? On en parle aujourd'hui avec Théodore Lokakao, expert en environnement. Vous avez des questions et préoccupations? Appelez-nous au 081-890-6394. Comment ça se passe dans votre milieu, dans votre quartier? Est-ce que vous êtes souvent victime des inondations? Quels sont les efforts qui ont déjà été entrepris pour prévenir ces inondations? Appelez pour partager vos témoignages au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comment prévenir les risques d'inondation? Alors, Théodore Lokakao, pour les gens qui habitent par exemple dans les bas quartiers, et c'est un quartier qui se trouve à un niveau bas et qui reçoit toutes les eaux qui viennent des avenues et d'ailleurs, voilà. Alors, comment réduire les risques d'inondation dans de tels quartiers?
Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, première chose, si le quartier a un réseau d'assainissement pluvial, donc un réseau d'égout, il faut commencer par déboucher ces caniveaux. Essayer de le rendre opérationnel afin qu'il puisse accueillir les eaux de pluie qui vont tomber.
Et dans un contexte où il n'y a pas de caniveau?
Ben, dans un contexte où il n'y a pas de caniveau, bon, à la mesure du possible, il faut que chaque parcelle puisse essayer de retenir ses eaux en créant un puits de rétention dans la parcelle, si possible, pour que ces eaux, on réduise les débits d'eau qui va aller dans la rue. À ce moment-là, le risque va être amoindri. Si chaque parcelle essaie de garder ses eaux, je crois que le risque sera amoindri.
Et les eaux qui viennent d'ailleurs, supérieures, qui viennent se déverser dans le quartier, comment gérer ça?
Bon, là, c'est au pouvoir public de prendre des dispositions pour qu'on puisse mettre en place des infrastructures d'assainissement capables de contenir, d'évacuer ces eaux correctement vers l'exutoire naturel, notamment une rivière.
Parce que parfois, même les caniveaux qu'on construit n'ont pas la capacité d'accueillir toute l'eau qui arrive, ce qui fait que parfois on assiste à des ruissellements sauvages.
Non, un bon caniveau bien étudié devrait accueillir toutes les eaux qui tombent dans l'espace considéré. Mais si le caniveau ne répond plus, c'est que notamment on a construit l'imperméabilisation des sols a été agrandie, ce qui fait que les quantités d'eau de pluie sont devenues plus importantes que ce qui a été prévu dans le projet de mise en place de cette infrastructure.
Mmh. Doudou Kadima nous appelle d'Mboujimaï. Bonjour Doudou.
Bonjour, Kachama. Bonjour, Salem Fidel.
Bonjour.
Quelle est votre question, Doudou?
Bon, moi, je vais dire ceci, parce que ça m'intéresse trop. Je suis dans un quartier très bas. La pluie s'était abattue hier. Vraiment, si vous voyez le quartier que j'habite, c'était devenu comme, nous étions devenus comme dans un abri. Ok. Maintenant, vous dites même aux voisins de cotiser l'argent pour faire même le un caniveau. Donc, les voisins ne veulent pas donner l'argent. Donc.
Oui, vous demandez aux voisins de cotiser pour aménager des caniveaux, mais les voisins refusent. Eh bien, il n'est plus en ligne. Fichou, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, la radio Kati.
On vous écoute.
Vraiment, j'ai une préoccupation majeure à intervenir.
Mmh.
Chez nous, dans la ville de Kisangani, nous avons la commune principale, c'est la commune Makissou, où il y a les plus grands collecteurs à au moins une longueur de 5 à 6 kilomètres. Et maintenant, la construction de la ville a été, il y a des zones où les Belges avaient laissé pour éviter à ce qu'il y ait communication entre la commune Makissou et d'autres communes périphériques. Et maintenant, après l'indépendance, les gens ont construit maintenant dans la zone périphérique là qui reliait la commune Makissou et d'autres communes. Et maintenant, cela a fait à ce qu'il y ait maintenant des inondations à partir des grands collecteurs qui passaient, qui quittaient Makissou vers la rivière Tchop. Et maintenant, c'est là c'est à ce qu'il y ait des inondations terribles. Or, les grands collecteurs, là, aient les profondeurs de 2 mètres et grandeur au moins de 2 mètres 20 aussi. Et maintenant, aujourd'hui, comme il y a des inondations, que faut-il faire? Faut-il sacrifier plus de 50 ménages qui habitent ces quartiers? Ou faut-il faire quoi maintenant pour éviter l'inondation?
Merci Pichou. Rachel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Allô, bonjour, bonjour, c'est à l'invité. J'ai une question à poser à l'invité. Bon, ce que moi j'ai remarqué ici, parce que là où je suis ici à Lingala, bon, quand il y a la pluie, il n'y a pas vraiment des inondations tellement comme on le dit, mais quand je suis partie un peu dans un commune dont le nom m'échappe, j'ai vu qu'il y avait vraiment. Donc, les gens n'avaient pas moyen de traverser et d'autres gens disaient qu'ils avaient peur parce qu'il y a des fils de courant partout là et avec de l'eau, des fois les gens meurent aussi. Alors, ça m'a un peu dépassé. Ma question, ça va l'inviter jusque là. Pourquoi on ne veut pas trouver solution à tout ça? Parce que là, les gens courent des risques à la fois. Il n'y a pas seulement de l'eau, mais il y a aussi du courant qui menace aussi la population.
Bien, merci. Doudou, vous êtes de nouveau en ligne. Bonjour.
Oui, merci, je dis Daniel Kachama.
Alors, oui, vous avez parlé du voisin qui ne veut pas cotiser pour construire un caniveau dans le quartier afin de lutter contre les inondations. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Oui, oui, effectivement, le quartier où j'habite, parce que la pluie c'était hier, maintenant il y avait de l'eau partout dans la parcelle. Maintenant, si vous demandez aux voisins de cotiser l'argent pour que vous puissiez faire même le caniveau, les voisins ne peuvent pas faire. Maintenant, comme je me suis dit, est-ce que moi je peux faire le caniveau pour juste protéger ma parcelle? C'est ça ma seule question. Est-ce que je peux faire le caniveau pour protéger ma parcelle, mais les parcelles des autres sont toujours donc pleines de zones de pluie dans leurs parcelles?
D'accord, merci. Théodore Lokakao.
À Monsieur Doudou, je dirais que le problème d'assainissement pluvial dans un quartier, c'est un problème à la fois individuel et collectif. Donc cela signifie qu'il y a un problème de prise de conscience des réalités du quartier par le membre de celui-ci. Alors,
les voisins refusent. Est-ce qu'il peut construire un caniveau pour protéger sa parcelle?
Non, s'il estime qu'il peut... Bon, c'est une obligation d'abord pour lui de protéger sa maison, sa famille. Donc, il peut construire la partie des caniveaux le long de sa parcelle.
Mais est-ce que ça va résoudre le problème?
Mais c'est ça la question fondamentale. Est-ce que ça va résoudre d'une façon définitive le problème? Ou alors, si cette construction peut aider les autres de prendre conscience et de faire de même, ça peut peut-être progressivement arranger les problèmes, disons, arranger les caniveaux.
Mais généralement aussi, il y a un problème dans nos quartiers, dans nos villes. Mmh. Vous voulez prendre l'initiative de construire les caniveaux, le chef du quartier ou une autorité vous dit que vous n'avez pas le droit de le faire.
Bien sûr, mais on résout aujourd'hui ce problème de cette manière-ci, en constituant des comités locaux de développement ou comités locaux de développement du quartier. À ce moment-là, ces comités, dans le cas de développement communautaire, est reconnu par l'autorité communale. Il y a même un comité communal de développement dans lequel le bourgmestre est membre ou président. Alors à ce moment-là, les difficultés ou des relations entre le chef de quartier et le membre du quartier ne vont plus se faire. Et on peut résoudre beaucoup de problèmes par cette voie.
D'accord. Pichou parle d'un collecteur de 5 à 6 kilomètres qui a été construit par les Belges à l'époque. Et ils avaient prévu une zone tampon où on ne devait pas construire. Oui, après la commune de Makisso. Mais les gens ont envahi cette partie, ont construit des maisons. Aujourd'hui, il y a des inondations terribles, d'après lui, à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, la solution la plus radicale serait de détruire ces habitations pour que ces caniveaux deviennent fonctionnels. Ou alors, il faut étudier la manière de boucher ces caniveaux, ces collecteurs plutôt, pour en faire un autre pour résoudre le problème. Mais c'est aux autorités administratives locales d'estimer les coûts, de voir quelle est la bonne solution par rapport à faire appliquer par rapport à ces problèmes.
Faut-il raser toutes ces constructions parce qu'il parle de plus de 50 ménages qui vivent là.
C'est vrai.
Dans cet endroit-là.
Du point de vue social, c'est un problème. Mais si ce sont des constructions anarchiques, normalement, on peut le raser sans que ces derniers soient indemnisés. Et il serait utile que la ville, pour les années à venir, puisse penser déjà à élaborer un plan général d'aménagement qui prendra en compte toutes ces préoccupations. Parce que la vie ne va pas s'arrêter à l'étendue qu'elle a aujourd'hui. Elle va s'étendre de plus en plus, elle va se développer de plus en plus. Alors ce développement urbain demande que, au niveau du gouvernement ou de la mairie, on puisse déjà penser à son développement et faire un plan général d'aménagement.
Voilà. Il y a Rachel de Kinshasa, nous parle de Léa Lingwala. Souvent, quand il pleut,
il n'y a pas de problème,
mais il y a quelques petites inondations. Sur l'avenue des Huileries, par exemple, il y a des inondations à ce niveau-là. Et le problème, c'est qu'il y a des câbles dénudés, des câbles électriques dénudés. Et il y a le risque d'électrocution. Oui. Alors, il revient sur ça. Et qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, c'est le problème que la SNEL devrait, résoudre. Parce que ces raccordements que j'appellerais sauvages sont faits parfois par les habitants. Et quand il pleut, il y a inondation, la rue est inondée d'eau, donc l'électrocution est élevée, le risque d'électrocution est élevé. Mais j'ai remarqué que depuis un certain temps, la SNEL fait un effort de couper le courant dans certains quartiers pour éviter qu'il y ait risque.
Dès qu'il y a une forte pluie,
on coupe le courant. Mais parfois, si cette coupure intervient en retard, il peut toujours avoir d'électrocution par-ci par-là.
Comment prévenir les risques d'inondation? On en parle aujourd'hui avec Théodore Lokakao. On retient premièrement, pour lutter contre les risques, vous avez dit, il faut construire des caniveaux. Ou s'il existe des caniveaux, il faut les entretenir
régulièrement.
Régulièrement. Alors, et s'il n'y a pas de caniveaux, il faut les construire.
Il faut les construire, ça a un coût, donc ce n'est pas les individus qui peuvent le faire, donc c'est...
Oui, il y a par exemple des quartiers ici à Kinshasa, Massina sans fil, où il n'y a presque pas des caniveaux.
Oui, nous avons fait faire une étude par les étudiants à ce sujet. Effectivement, c'est un quartier type d'autoconstruction, il n'y a pas de caniveaux, ce qui fait que certaines rues de ces quartiers sont impraticables pendant la saison des pluies. Et comme c'est un quartier un peu surélevé, les quartiers environnants sont inondés d'eau. Donc toutes les eaux qui tombent sur sans fil vont se déverser dans les quartiers environnants et vous avez des maisons complètement sous eau. Donc si vous visitez les quartiers environnants de ces quartiers aujourd'hui, c'est pratiquement impossible d'y vivre.
Voilà, c'est pratiquement impossible. Et pourquoi il n'y a pas eu de caniveaux dans ces quartiers-là?
Oui, mais les gens préféraient occuper cet espace sans que on mette au préalable des infrastructures de base nécessaires. qui peuvent permettre qu'ils vivent dans les meilleures conditions. Alors, le résultat, c'est que, bon, vous avez, par exemple, dans le quartier même sans fil, des rues en cul-de-sac, vous ne savez pas où est la rue va aller, et puis des rues étroites, les eaux traînent dans la rue, les gens jettent de l'eau de ménage dans la rue, donc ça crée beaucoup de problèmes de maladies d'origine hydrique. Hein. Malaria, typhoïde et autres maladies d'origine hydrique.
Mmh. Maintenant, les quartiers environnants subissent donc, la soif des, sont inondés généralement.
Généralement.
Oui. Alors, pour ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours, tout simplement aménager des caniveaux.
Oui, les études qui ont été faites par des étudiants que j'ai eu l'occasion de diriger à l'ISTA ont permis de faire un plan qui peut aider à construire ces caniveaux. Mais ça a un coût qu'il faut, disons, évaluer et peut-être demander à l'autorité de donner les moyens financiers.
D'accord. Et dans les quartiers marécageux, comment prévenir les risques d'inondation?
Bon, si les quartiers marécageux, au départ, il est sous eau.
Il est sous eau.
Donc, il faut étudier la manière de chasser cette eau par le remblayage, compactage et en créant des caniveaux. J'habite un quartier pareil, l'ancien quartier où il y avait des rizières, le long de la rivière Nchili, Katiabatoa, on appelle ça Vallée Ngangwele.
Bon, c'est un quartier marécageux.
C'était un quartier marécageux, oui. Mais comme il y avait des rigoles prévues pour évacuer les eaux des pluies, notamment des eaux de ces rizières, alors on a dû amener de la terre, beaucoup de terre, pour que les parcelles deviennent agréables à vivre. Et aujourd'hui, on a...
Aujourd'hui, il fait bon vivre là-bas. Et quand il pleut, il n'y a plus d'inondation.
On a connu une inondation parce que là, c'était une rupture le long de la berge, parce que quelqu'un prenait de la terre qui était mise sur la berge pour vendre. Et nous avons connu une inondation où les eaux sont entrées dans nos maisons jusqu'à une hauteur de 1 à 2 mètres.
Jusqu'à 2 mètres. Et vous avez tout perdu.
Oui, on a perdu beaucoup de biens, mais au bout de 3 jours, les eaux sont parties. Mais aujourd'hui, on est en train de renforcer la berge avec des déchets, on met des sols. Et puis, y a même une association du quartier qui est organisée. On a fait des cotisations.
Comment prévenir les risques d'inondation? Jean des Dieux nous appelle des Kikwit et Patrick est à Lubumbashi.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Jean des Dieux, vous êtes à Kikwit, bonjour. Jean des Dieux, bonjour. Patrick Delumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur, bonjour à Okapi Service.
On vous écoute, Patrick, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre radio, vous allez suivre à partir de votre téléphone. Hein.
Oui, je suis à Lubumbashi, mais les problèmes, j'habite dans un quartier où, tout près, il y a beaucoup d'inondations appelées à l'époque Kabecha, là où on prenait les immondices et on jetait à l'époque, et puis on prenait ces immondices pour les jeter dans les grands dépotoirs.
Oui.
Aujourd'hui, ce sont des maisons, des parties habitées, non urbanisées, et puis pas de caniveaux. S'il pleut, par exemple, aujourd'hui à Lubumbashi, il a plu pendant toute la nuit, il y a beaucoup d'inondations, il y a beaucoup d'eau. Comment faire pour canaliser? Parce qu'il y a pas, les parties n'est pas urbanisées, les maisons construites anarchiquement, c'est compliqué. Comment faire pour avoir un bon moment ou avoir un temps qui peut nous faire du bien.
Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Patrick, monsieur Théodore?
Bon, d'abord, on doit faire une étude, faire un projet d'assainissement du quartier qui va permettre d'étudier les quantités d'eau qui tombent, comment on peut les évacuer rue par rue. Et dans un premier temps, il faut qu'au niveau du quartier, les gens puissent essayer de collecter leurs eaux, comme j'ai dit au début là, en faisant depuis des rétentions au niveau de la parcelle.
Dans chaque parcelle.
Au niveau de la rue, afin que la masse au bout de la rue ne soit pas très importante, et qui peut causer des dégâts.
Et qui doit mener ces études?
Bon, bien sûr, là, ça demande qu'au niveau du quartier, de la commune, on puisse arriver à faire un projet d'assainissement avec des experts en la matière qui vont mener cette étude.
Mais généralement, ces genres d'études ne sont pas menées.
Oui, ne sont pas menées. Ou alors, il faut que, comme j'ai dit au départ, si les habitants du quartier s'organisent en comité local de développement, ils peuvent, avec leurs moyens, éventuellement, chercher un expert dans la matière pour leur faire une étude, un projet d'assainissement pour que les eaux de leur quartier soient correctement évacuées vers un exutoire.
Voilà. Donc il faut
s'organiser
au niveau du comité à la base,
à la base, comme on dit,
pour gérer ces problèmes.
Voilà, pour gérer.
Parce que si on attend tout de l'État, des autorités,
les moyens sont pas toujours suffisants pour résoudre tous les problèmes.
Voilà. Mais il y a un problème, il parle de ces Kabecha, qui était un dépotoir d'après lui, et puis les gens ont construit, il n'y a pas un plan d'aménagement, donc il y a des problèmes d'urbanisation. Généralement, il y a beaucoup de quartiers comme ça qui naissent spontanément et qui ne sont pas urbanisés.
C'est un peu le drame. Hein. Mais s'il y a un plan général d'aménagement de la ville, mais j'espère qu'aujourd'hui le Lubumbashi doit en avoir, ou est en train de chercher à en avoir, cela va résoudre ce genre de problèmes. Parce que quand il n'y a pas de plan général d'aménagement, parce qu'un plan général d'aménagement, s'il est élaboré, c'est une loi opposable à tous. Donc on a déjà prévu toutes les infrastructures de base nécessaires. Même si ce n'est pas fait, mais c'est déjà prévu, on va dire aux gens, ne construisez pas ici, construisez là, faites ceci, faites là. Mais s'il n'y a pas un plan général d'aménagement, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut.
Alors si dans un quartier il y a des caniveaux qui sont bien curés, curés régulièrement, et dans chaque parcelle il y a des bassins de rétention d'eau des pluies, mais il y a toujours des inondations. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, s'il y a des inondations dans un tel quartier, c'est qu'il y a un problème de redimensionner les caniveaux. C'est que les caniveaux qui sont existants ne sont pas plus en mesure de collecter correctement les eaux. Donc il faut le redimensionner, il faut essayer de voir comment ces caniveaux peuvent répondre aux quantités d'eau qui sont pluviales qui tombent sur le quartier.
Bien, Théodore Lokakao, chargé d'études en environnement au ministère provincial du plan et des travaux publics de la ville province de Kinshasa. J'allais déjà vous remercier. Avant cela, on me fait signe qu'il y a un auditeur en ligne, Emmanuel, qui nous appelle des Guémena. Bonjour Emmanuel.
Bonjour la radio Kapi.
Quelle est votre question?
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Malgré que j'ai pris l'émission à pied levé, je ne sais pas si cette question était déjà posée. Cela ne m'empêche pas de pouvoir l'exhiber.
Quelle est la question, Emmanuel?
Oui, j'ai une petite question à poser à l'invité. Je voulais juste te demander si la placement du terrain est l'un des facteurs qui lutte contre l'inondation. Et je vous remercie. L'emplacement du terrain.
Théodore Lokakao.
Oui. Le terrain en soi n'est pas. Je dirais pas que un terrain est propice aux inondations, un autre ne l'est pas. C'est l'homme qui aménage l'espace. Quel que soit le type de terrain qu'on a, si cet espace est bien aménagé, c'est-à-dire il y a des infrastructures d'assainissement pluvial bien mises en place, le problème d'inondation ne se posera plus. On a vu des quartiers ici à Kinshasa. Bon, je cite par exemple le quartier de Mbinza, là où on avait des grandes personnalités pendant la Deuxième République, bien aménagées, avec des caniveaux et tout ça. On n'a pas de problème d'érosion. Mais par contre, là où l'aménagement n'a pas été fait, on n'a pas mis en place des caniveaux suffisants, où ils sont inexistants, il y a des problèmes d'érosion. Quand vous prenez Makala, vous prenez Selemba, vous prenez Kisenso, Mongafoule et autres, vous avez des trous béants de plusieurs mètres de profondeur. Mais si vous prenez Salongo, qui a été bien aménagé, vous prenez Mama Mobutu, vous prenez la Cité Verte, ce sont des zones collinaires aussi, des quartiers collinaires. Mm-hmm. Mais les problèmes d'érosion ne se posent pas.
Non, Mama Mobutu a connu aussi des zones
d'érosion. Oui, parce d'érosion. Que les quartiers, les espaces environnants ont été déboisés, les gens ont occupé ces espaces. Et les érosions sont parties d'en bas. Les érosions ne partent jamais de la colline, c'est toujours d'en bas, pour aller vers les quartiers, vers la colline. Vers les sommets de la colline.
Théodore Lokakao, expert en environnement, merci.
Je vous en prie.
Et bonne journée.
C'est à moi de vous remercier.